Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce. I know what you are, Cad. You're a Hellmaiden. But it has to be our secret. That's how I can protect you. Protect me from what? Your demons.
Whoa! I'm having a vision!
A green-headed girl.
She seems so real.
Greetings. We are the magician mortician, the artiste of the afterlife.
Wendell and Wild, c'est le nouveau film de Henry Selick avec avec Keegan-Michael Key et Jordan Peele, mais aussi Angela Bassett, Lyric Ross et Ving Rhames, et c'est François qui va nous en parler.
Avec grand plaisir. Nous allons suivre Kat Elliott, une jeune fille dont les parents vont mourir dans des circonstances atroces, c'est-à-dire que leur voiture tombe à l'eau et se remplit, et elle arrive à sortir de la voiture et ses parents sont noyés. Sachez que je fais des rêves comme ça, et que c'est vraiment, vous voyez les épisodes dans les Buffy ou les trucs comme ça, où vraiment il y a le maître des cauchemars qui arrive et qui matérialise ses cauchemars. Alors bienvenue, c'est mon cauchemar. Donc j'ai commencé vraiment le film dans un état de PLS avancé, je me sentais vraiment très très mal, même si la représentation est, ma foi, somme toute, reste un petit peu enfantine. On reste dans un film d'animation en stop motion. Et donc elle va être recueillie dans un orphelinat pour jeunes filles qui s'avérera être mixte. Et donc dans cet orphelinat pour jeunes filles, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs, qu'elle a une espèce de marque qui fait d'elle une sorcière. Et donc qu'en tant que sorcière, elle a le droit d'avoir des démons personnels qui sont censés servir ses desseins, qui s'appellent donc Wendell et Wild, qui eux vivent dans le monde des démons avec le diable, et qui font les corvées du diable, et qui aimeraient se barrer du monde démoniaque où ils font toutes les corvées, pour s'occuper de leur maîtresse, et éventuellement aussi, ils ont un autre projet, en fait. Parce qu'en réalité, alors, le monde des enfers est représenté comme une espèce de parc d'attractions pour les âmes, sous les ventres du diable. Voilà, donc on a le diable qui est un gros monstre avec des montagnes russes dessus sur lesquelles les âmes font tout le temps à longueur de journée. Et eux ont un super concept de parc qu'ils veulent faire donc dans le monde des humains. Et donc, ils vont pas du tout servir leur maîtresse, ils vont venir essayer de négocier pour faire leur... Car ce sont des démons, n'est-ce pas? Et donc, ils sont déloyaux. Et de négocier la création de ce parc dans la bourgade où on est, qui n'est pas identifié plus que ça.
C'est Détroit.
Voilà, encore une fois. Ouais. Ouais, c'est... Voilà, que vous dire de plus? Qui est-ce que je lance? Je lance Nam.
Ah bon?
Ouais, je lance direct Nam.
Tu lances rien du tout, c'est pas toi qui présente. Pourquoi est-ce que tu...
Alors, je lance Isabelle qui lance Nam.
Non,
vas-y.
Non, mais oui, Nam, vas-y, Nam, tu l'as vu.
Oui, je l'ai vu, et c'était plutôt sympathique. Histoire entre des histoires avec des... Une enfant perdue, orpheline, qui est dure à cuire. Elle a fait la prison juvénile, quand même.
L'école de la vie, quoi.
C'est ça.
Un peu comme Léa Seydoux. C'est un peu comme Léa Seydoux, mais dans un film.
Même parcours. Les deux mêmes. et du coup, en fait, arriver dans cette école, c'est un peu sa nouvelle chance. Et elle va se faire accueillir par les petites filles proprettes, dont une d'ailleurs est une enfant des deux riches qui essayent de racheter toute la ville pour faire une prison pour enfants, parce que c'est leur modèle économique. Ça a l'air d'être des gens bien.
Et d'ailleurs, moi j'en profite pour rebondir. Moi, il y a un truc que j'ai adoré dans le film, c'est qu'elle arrive et tu vois effectivement la petite blondinette qui arrive et tu dis ah, ça y est, ça va être la méchante. Elle va se faire bully. Et pas du tout. Les copines, elles sont adorables, elles sont super gentilles, elles l'accueillent trop bien, c'est hyper wholesome.
C'est juste qu'elles sont très over the top.
Ouais, voilà, peut-être un peu trop enthousiastes, même ça. Ce qui les rend un peu dans une autre angoisse, quoi. Mais alors qu'elle, bon, elle arrive, elle est un peu edgy et tout, et elle s'attend pas à se faire accueillir à bras ouverts comme ça. Et je voudrais que le film, déjà, ce petit retournement qu'il opère.
Et donc il y a ça, et après elle rencontre une autre camarade, enfin un autre camarade.
Un autre camarade, bah oui.
Qui est donc un personnage du transsexuel.
Qui est un adolescent transgenre. Pour utiliser les termes consacrés.
Qui lui s'appelle Raoul.
Raoul, ouais.
Et en fait, c'est avec l'autre paria. Qu'elle va surtout se lier d'amitié, enfin d'amitié entre guillemets. Parce que c'est...
D'ailleurs,
en fait,
c'est... Paria, personne n'est paria dans cette histoire, encore une fois.
Non,
personne
n'a été
rejeté.
En fait, c'est les deux qui se sentent rejetés.
Voilà.
Alors, en fait, ce ne sont pas vraiment au final, parce que les autres essayent de les inclure, mais c'est eux qui se mettent à l'écart. Et donc, en fait, elle va avoir besoin de Raoul, parce qu'elle a besoin d'un témoin pour.
Convoquer ses démons.
Pour convoquer les démons, pour que les démons puissent ressusciter ses parents. Et donc c'est sur le pauvre Raoul que ça tombe, qui va être le meilleur wingman quand même du film, qui va être toujours, c'est le Sam, hein, c'est le Sam du film, on a toujours besoin d'un Sam, c'est lui, et qui va pas mal sauver la situation plus ça avance. Et après j'ai bien aimé, bon, parce que c'est le réalisateur du coup de Coraline et
Étrange Monsieur Jack,
et on retrouve, comme dans ces deux films, cette impression de d'étrangeté bizarre, qui met un petit peu mal à l'aise avec la bon, parce que le film parle encore une fois de deuil, hein, pour changer, et là c'est vrai qu'il y a un côté, il y a des gens qui sont morts et puis il y a des gens qui reviennent, et du coup ils sont quand même morts, parce que bon, c'est néant,
il y a des morts vivants,
il y a des morts vivants dans le film, et c'est vrai que dans ce truc côté animation, ça, je trouvais que c'était à la fois c'était bien fait, et en même temps on retrouve le côté un peu entre fascination et malaisant que t'avais déjà, que tu pouvais déjà retrouver dans les autres films.
Il y a le côté un peu macabre, festif, quoi, qu'il a dans l'étrange de Noël de Monsieur Jack, qui avait déjà là, avec ce côté parc d'attractions des enfers. Il y a le côté c'est des morts, il y a des fantômes, le côté spectral et le côté on est puni, on se retrouve perdu dans une espèce de punition infernale. Il y a ce côté là mais en même temps c'est bariolé, il y a des couleurs, c'est assez fun, et c'est plutôt bien. Et alors il y a juste un défaut, en fait, c'est que je trouve que le film a trop de personnages ou trop d'intrigues secondaires pour son propre bien. C'est-à-dire que les deux fils rouges vraiment on a envie de s'attacher, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va essayer de résoudre le deuil de ses parents, et puis l'intrigue autour de l'établissement de la pension. Et derrière, ça rajoute vraiment beaucoup trop de personnages, je trouve. Beaucoup trop d'intrigues secondaires qui vont tout au bout, mais qui nous intéressent pas de manière égale, quoi. Donc du coup, ça rallonge. Le film est assez long pour un film d'animation. Mais à part ça, par contre, visuellement, on a parlé tout à l'heure avec Close d'un film de deuil, où moi je trouvais qu'il était assez limité dans sa représentation formelle, dans son utilisation des...
Pourquoi tu veux te rebattre sur Close?
Il était assez...
J'ai gagné la bagarre, voilà. C'est bon, c'est fini, voilà.
Il était assez limité dans les usages, les outils formels pour mettre ça en scène, alors que là, justement...
C'est de l'animation en stop motion.
C'est pas question d'animation, c'est question...
Non, par contre, le film est vraiment, très beau. C'est vraiment magnifique. Franchement, il y a
une idée...
Ouais, mais je trouve qu'il a step up son game, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il était quand même dans une esthétique qui est très marquée, années 80-90, qui a quand même été assez inspirée.
Coraline, c'était quand même très, très beau.
Oui, c'était très, très beau aussi. Mais je trouve qu'il a une capacité à se renouveler, qui est vraiment... Moi, je trouve que le film est hyper moderne, en fait. Vraiment, il n'y a pas le côté... Parfois, je trouve que l'animation en stop motion peut avoir un côté un peu vieillot. Et je trouve qu'il a réussi vraiment à apporter quelque chose de très très neuf et à avoir des idées vraiment visuelles très très bold. Et je finis juste un petit peu là-dessus. Et notamment la représentation du monde des enfers, où les personnages en fait sont à moitié de profil et on voit leur visage toujours de face par rapport à l'écran. Et je trouve qu'il y a vraiment des réussites visuelles et des tentatives visuelles très très réussies.
Léa, oui. Tu l'as vu aussi ?
Oui.
Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Je vous rejoins, j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis extrêmement fan d'Henri Selick. Coraline, c'est un de mes top 5 films ever. Là, j'ai trouvé, je suis d'accord avec Justin, le scénario est trop alambiqué pour son propre bien, parce que l'univers est super foisonnant. On aimerait trop en voir plus, suivre tous les personnages, s'attacher à tout le monde, mais en fait, il n'y a pas le temps. Et du coup, ça, on se perd un petit peu sur ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, oui, c'est visuellement, c'est incroyable. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'en fait on ait beaucoup de personnages racisés. Il y a très peu de personnages blancs dans le film, et ça c'est la première fois que je vois ça dans un film en stop motion, hein, clairement.
Jordan Peele à la production.
Oui, Jordan Peele. Enfin, et on le sent.
Le personnage transgenre, pour moi c'est un des personnages transgenres les mieux amenés.
Complètement.
De tout ce que j'ai pu voir dans la production hollywoodienne de ces dernières années.
Et puis on sent aussi la patte de Jordan Peele, parce que ça représente aussi les cultures noires américaines.
Ouais.
Très bien. Enfin, c'était hyper, hyper bien amené, hyper subtil, pas du tout... In Your Face, et ça j'ai trouvé ça super, ça, c'était la première fois que je voyais ça dans un film en stop motion, et du coup je me suis attachée au personnage et j'aimerais en voir plus, du coup je suis un peu restée à la fin du film, parce que même la résolution est un peu rapide, et c'est un petit peu enfantin, on était dans quelque chose d'assez mature, dans l'exploration du deuil, avec plein de petits personnages aussi un peu comiques, mais la fin c'était un peu trop... tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, bon. Même si des gens meurent.
Je suis à moitié d'accord avec toi. Alors, il y a une première fin où elle dit adieu à ses parents, en quelque sorte, et je trouve que ça aurait dû s'arrêter là. Et ça rallonge la sauce avec l'histoire de la ville, justement, oui. Où ça ne nous a pas trop intéressés pendant le film.
Après, l'histoire de la ville où ils veulent construire une prison, je trouve que c'est... Alors, pour le coup, c'est un petit peu daté en termes de thème. Enfin, c'est un peu une intrigue de Riverdale aussi, il y a ça dans Riverdale à un moment. Donc, c'est pas le truc le plus subtil. Néanmoins, il y a un moment où les parents de la blonde expliquent tout leur plan pour faire une prison dans la ville et décrivent une espèce d'enfer capitaliste où ils disent « Oui, mais vous comprenez, si on leur donne une mauvaise éducation, il y a plus de chances qu'ils aillent en prison. » Et du coup, j'ai trouvé le discours, je me suis dit « Mais ah, là, dans un film pour enfants, vous nous refaites... tout le discours du capitalisme carcéral, et j'ai fait waouh, quand même.
Mais c'est un peu survolé. Moi, j'ai eu du mal à m'impliquer sur cette partie-là. On sent que c'est un discours qui
c'est un peu
quoi.
Les méchants.
C'est un peu plaqué. Quoi.
En parlant de passages un peu survolés, il y a deux personnages dont on n'a pas encore parlé, qui sont la nonne et le. Janiteur, en français on dit comment ?
Concierge.
Merci.
Non, n'importe quoi.
Le concierge
du concierge
de l'école.
Enfin, oui,
puisqu'il a aussi accès aux caméras de surveillance.
Le concierge de l'école qui a pas de pied, voilà, c'est une particularité. Il a pas de pied et il fait une collection de démons. Et donc on apprend très vite qu'en fait la nonne possède aussi la marque pour invoquer des démons. Et d'ailleurs elle a des pouvoirs que l'héroïne n'a pas encore. Et on apprend que le concierge lui a forcé quand elle était enfant à invoquer des démons pour qu'il puisse agrandir sa collection. Et tu comprends que les deux ils s'aiment pas trop. Et en fait au bout d'un moment ça va. Et puis à la fin, le concierge il sauve plus ou moins la situation. C'est très bizarre la manière dont c'est fait ça. Il manque du développement de personnage.
Oui, on comprend pas trop, il y a trop de revirements. Et puis en fait, il est d'accord pour résoudre la situation en deux secondes alors que c'est son œuvre de sa vie.
Mais c'est ça. Ouais.
J'étais un peu. C'est pour ça que la
et
fin. Il
nous
vraiment...
est pas apparu plus sympathique que ça jusque-là. Et tout d'un coup, là, il accepte de faire ça pour arranger tout le monde. Mm. Un peu bizarre. Et un autre point que j'ai bien aimé, c'est justement dans cette idée de représentation du deuil, de la culpabilité, d'avoir une idée formelle, vraiment visuellement. Par exemple, la scène où elle a ces espèces de démons intérieurs, on va dire, de mal intérieur, de mélange de culpabilité, de haine, de tout ce qui la ronge depuis le décès de ses parents. Et le fait d'avoir une représentation visuelle, voilà, d'une espèce d'ombre menaçante, qu'elle réussit à extraire et comme ça à réussir à faire son deuil, c'est quand je parlais tout à l'heure de Clos, c'est ce genre de matérialiser ça formellement par avoir des ambiances diversifiées, voilà, des idées hétérogènes pour exploiter le même thème. C'est ce qui m'a manqué sur l'autre film dont on a parlé, et là il y a cette scène-là, moi je trouve ça super, super intéressant. Il y a même un côté psychanalytique, hein, presque, hein, de représenter ça formellement de cette manière-là. C'est super intéressant.
Je trouve aussi la représentation de tous les tropes religieux, comme le directeur de l'académie qui revient en espèce de pape sanglant après avoir été tué, le parc d'attractions sur le corps du diable. Je trouve que ça subvertit énormément l'imagerie religieuse habituelle qu'on peut avoir.
Pour un film pour enfants, il y a les morts, il y a celle d'ouverture. Mais il y a le prêtre, les deux méchants qui le tuent. La scène est quand même... La scène, ça y va quand même, c'est assez frontal.
Coraline, c'était énervé.
Merci
Gaiman. Mais il y a vraiment quelque chose qui est cool avec Henry Selick, c'est que il prend pas parce que même si tu regardes son fameux le cauchemar
avant Noël,
l'étranger et le Mr Jack, il y a aussi bien sûr on a une patte qui est aussi très influencée par Tim Burton, mais il y a aussi un côté assez violent dans les scènes, notamment dans les interactions avec le boogeyman et tout, donc il a jamais été effrayé de montrer un peu du gore, le mec qui s'ouvre le crâne et qui sort son cerveau sur la table. Et c'est ça qui est cool aussi avec lui, c'est qu'il a il fait des films pour enfants qui je pense ont introduit beaucoup d'enfants au monde du fantastique, du gothique et de l'horreur, donc c'est sympa de voir qu'il continue de le faire, quoi.
Il y a eu un débat sur Twitter sur justement Tim Burton qui s'est un peu approprié L'étrange Noël de Mr Jack au Festival Lumière, où il a dit c'est vraiment mon film préféré de moi. Alors que c'est Henry Selick qui l'a fait. En fait, Henry Selick, je trouve qu'avec le film, et même avec Coraline avant, c'est qu'il a une capacité à s'approprier à l'univers de quelqu'un et à le rapatrier chez lui, c'est-à-dire l'étrange Noël de Mr. Jack, bah, il a réussi à rapatrier Tim Burton chez lui, en réalité. De la même manière, il a réapproprié Neil Gaiman chez lui dans Coraline. Et là, je trouve que l'univers de Jordan Peele, pareil, il arrive à se l'approprier, encore une fois, chez lui.
Sachant que Tim Burton, quand il a fait son film d'animation tout seul, on a vu la différence.
Les Noces Funèbres, que j'ai bien aimé.
Moi, j'ai bien aimé les Noces Funèbres, mais j'ai préféré... Et puis, c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique, l'étrange Noël de Mr. Jack, il est vraiment... Il est tellement au-dessus, quoi.
Je parlais un petit peu de réalisation tout à l'heure, et c'est vrai que là, il y a des nouvelles techniques qu'ils n'avaient pas utilisées avant pour la stop motion, avec par exemple le fait de faire des stop motion, c'est toujours des arrêts sur image, et là ils ont joué à certains moments avec le temps de prise de cet arrêt sur image, et du coup tu vas avoir des même si tu sais que c'est une photo, c'est tu vas avoir quand même un mouvement qui va être créé dans ton image, des choses qu'on n'avait pas avant, ou utilisation un petit peu de CGI pour ajouter de la fumée, genre de choses qui marche plutôt pas mal. Donc il y a quand même des petites prises de risque.
Et d'ailleurs, ils sont arrivés à un tel degré de maîtrise que maintenant, ils sont obligés numériquement d'ajouter le côté saccadé du stop motion, parce que sinon, c'est trop fluide et on croit être devant un film d'animation normal, en fait.
Ça,
donc du coup, ils sont obligés d'arrêter.
Et même sur les personnages, je sais pas si vous avez remarqué, mais sous les yeux, ils ont tous une espèce de ligne qui est une ligne de démarcation qui n'a rien de biologique, qui est celle de la marionnette. Et je pense qu'ils l'ont laissé justement pour... Et je trouve ça très intelligent de l'avoir laissé justement.
Ça se voit notamment sur le personnage de Raoul qui a les cheveux rasés sur le côté. Et tu vois bien genre les traces...
Les différentes parties
de la marionnette qui s'imbriquent les uns dans les autres.
Et du coup, ça a énormément de charme.
Parce qu'il pourrait facilement le masquer, l'effacer. Et puis du coup, il le laisse volontairement pour garder la petite patine de la stop motion, quoi.
Et sinon, les démons, ils étaient très sympas pour des démons.
Ils sont pas toujours fiables.
Ils sont un peu chaotiques.
Ils sont pas toujours fiables, mais
ils sont un peu random. Ils oublient de faire les trois quarts des choses qu'ils doivent faire.
C'est ça, ils ont.
C'est un peu méchant.
De ce que vous m'en dites, ils me font penser au petit démon dans ton film préféré, bien sûr, Hercule. Un film que tu adores.
D'ailleurs, ils ont annoncé la nouvelle version live chez Disney. Et ils ont dit que ce sera inspiré des tendances TikTok.
Oui, j'ai vu.
Et je trouve que c'est très bien de prendre un extra step dans l'horreur. Parce que déjà, le premier était abominable. Et là, vraiment, je trouve que c'est encore au-delà. Je pense qu'ils pourraient rajouter en plus des crypto-monnaies dedans. Je pense que ce serait encore mieux.
Tu as tort, mais ce n'est pas grave.
Moi, les deux démons, ils m'ont rappelé un peu l'esprit qu'il y avait dans ce film de Terry Gilliam où t'as des voyages dans le temps et le diable.
Midjo Black, pardon.
Time Bandit,
c'est ça.
Alors moi, ils me font penser aux deux gerboises de.
Les nains sont pas très fiables. Ouais, les nains sont pas très fiables.
Il y a deux espèces
non plus.
De machins. Ils sont complètement chaotiques.
Les deux mangoustes.
Voilà, c'est ça.
Les mangoustes.
Exactement.
Je sais pas ce que c'est comme bête. Des espèces de blaireaux préhistoriques. Comme Laurent Wauquiez.
Bon, on s'égare. On s'égare.
Il y a le côté un peu, c'est des démons. Du coup, ils font des trucs méchants, mais on a vu des méchants plus méchants. C'est voilà, ils sont méchants par principe.
De toute façon, c'est toujours la représentation des enfers qui est très joyeuse.
Bien sûr.
Oui. Très bien. Eh bien, c'est à voir avec vos enfants.
C'est validé.
Sans vos enfants, c'est validé. Merci beaucoup à tous.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.